Toi et ta maison ou Le chrétien chez lui par C.H. McIntosh. Sixième édition. Il y a deux maisons qui occupent une place très éminente dans les pages inspirées. Ce sont la maison de Dieu et la maison du serviteur de Dieu. Dieu attache une immense importance à sa maison, et cela à juste titre, parce qu'elle est sienne. Sa vérité, son honneur, son caractère, sa gloire sont inclus dans le caractère de sa maison. Aussi est-ce son désir que l'expression de ce qu'il est fasse partie d'une manière évidente de ce qui lui appartient. Si Dieu a une maison, elle doit assurément être une maison où règne la piété. Elle doit être une sainte maison, une maison spirituelle, pure et céleste. Elle doit avoir tous ses caractères, non seulement d'une manière abstraite et en principe, mais aussi en pratique. Sa position est telle que Dieu l'a faite, mais son caractère pratique est le résultat de la marche pratique de ceux qui en font partie ici-bas. Beaucoup d'âmes peuvent être disposées à comprendre la vérité et l'importance des principes relatifs à la maison de Dieu, mais il y en a peu, comparativement, qui donnent une attention suffisante aux principes qui doivent gouverner la maison du serviteur de Dieu. Cependant, si quelqu'un posait cette question, quelle est la maison qui, après celle de Dieu, a le plus d'importance? On lui répondrait indubitablement, c'est la maison du serviteur de Dieu. Rien n'étant plus puissant sur la conscience que la sainte autorité de la parole de Dieu, je désire citer quelques passages de l'Écriture qui tendent à montrer, avec force et clarté, quelles sont les pensées de Dieu à l'égard de ce que doit être la maison d'un de ses enfants. Quand l'iniquité du monde antédiluvien eut atteint son plus haut degré, et que la fin de toute chair fut venue devant le Dieu juste, qui allait faire monter les flots de son jugement sur toute cette scène de corruption, ses douces paroles se firent entendre à l'oreille de Noé.
« Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. »
Genèse 7, verset 1. On dira sans doute, et avec raison, que Noé était, en cela, un type de Christ, tête juste de toute la famille des sauvés, sauvés en vertu de leur union avec lui. Mais je vois, dans l'histoire de Noé, autre chose encore qu'un caractère typique. Je vois, ici et dans d'autres passages analogues, un principe que, dès le début de cet écrit, j'exprimerai explicitement. Ce principe est celui-ci, que la maison de chaque serviteur de Dieu est, en vertu de sa relation avec lui, placée dans une position de privilège et par conséquent de responsabilité. Une note en bas de page. Le lecteur ne s'imaginera pas, je l'espère, que je veuille, par ces paroles, nier ou affaiblir la nécessité de l'œuvre du Saint-Esprit pour la régénération des enfants de parents chrétiens.
Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Cela est vrai de l'enfant d'un chrétien aussi bien que de tout autre. La grâce n'est pas héréditaire. Le résumé de ce que je voulais dire est que l'Écriture ne voit pas un homme séparément de sa maison, que le père chrétien peut compter sur Dieu pour ses enfants et qu'il est responsable de les élever pour Dieu. Sans cela, comment expliquer Éphésiens 6, verset 4 ?
Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur.
Fin de la note. Ce principe a d'infinies conséquences pratiques. C'est ce que nous nous proposons de constater par la parole de Dieu. Si nous étions réduits à raisonner par analogie, notre thèse serait aisément établie. Car quelle est la personne qui, connaissant le caractère et les voies de Dieu, pourrait croire que Dieu attache une immense importance à ce qui concerne sa propre maison, et qu'il n'en attache aucune, ou presque point, à celle de son serviteur? Cela ne ressemblerait pas à Dieu, qui est toujours semblable à lui-même, d'être indifférent à ce qui concerne un de ses enfants. Mais nous ne sommes pas réduits à l'analogie pour traiter cette question si sérieuse et si profondément pratique. Le passage que nous avons cité n'est que le premier d'une série d'autres qui sont des preuves positives de ce que je désire faire comprendre. Dans Genèse 7, verset 1, nous trouvons les mots significatifs « Toi et ta maison, inséparablement unis ». Dieu n'y révèle pas à Noé un salut sans profit pour sa maison. Jamais il n'a pensé à une telle chose. La même arche qui est ouverte pour lui est aussi ouverte pour les siens. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils étaient fidèles? Non, mais parce que Noé l'était et qu'ils étaient unis à lui. Dieu lui donne, pour ainsi dire, un sauf-conduit qui doit servir pour lui et pour sa famille. Je le répète, ceci n'affaiblit en rien le caractère typique de Noé. Je vois en lui ce caractère, mais j'y vois aussi ce principe que, quelles que soient les circonstances, on ne doit pas séparer un homme de sa maison. Le faire impliquerait tout d'un coup la plus violente confusion et la plus basse démoralisation. La maison de Dieu est placée dans une position de bénédiction et de responsabilité parce qu'elle est unie à lui. Et la maison du serviteur de Dieu est, par la même raison, dans une position de bénédiction et de responsabilité. Telle est notre thèse. Le second passage que je citerai est relatif à la vie d'Abraham.
Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. »
Genèse 18, versets 17 à 19. Ce n'est pas ici une question de salut, mais c'en est une de communion avec la pensée et les conseils de Dieu. Que le Père chrétien remarque et pèse solennellement le fait que, lorsque Dieu cherchait un homme à qui il pût dévoiler ses conseils secrets, il choisit celui qui commandait à ses fils et à sa maison de garder les voies du Seigneur. Ceci ne peut manquer de faire une vive impression sur une conscience délicate, car s'il est une chose à l'égard de laquelle les chrétiens aient manqué plus qu'à d'autres, c'est bien le devoir de commander à leurs enfants et à leur maison de servir le Seigneur. Ils n'ont certainement pas eu Dieu devant les yeux à ce sujet, car, en regardant aux voies de Dieu relativement à sa maison, il les aurait vus constamment signalés par la puissance sur le principe de la justice. Il a fermement établi et invariablement maintenu sa sainte autorité. N'importe l'aspect ou le caractère extérieur de la maison de Dieu, le principe essentiel de ses dispensations envers elle est immuable.
Tes témoignages sont très sûrs. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours.
Psaume 93, verset 5. Le serviteur doit toujours prendre son maître comme modèle, et si Dieu gouverne sa maison avec une puissance exercée en justice, ainsi dois-je gouverner la mienne. Car si, en quelques détails, je diffère de Dieu dans ma conduite, j'ai évidemment tort en ce détail. C'est clair. Or, non seulement Dieu gouverne sa maison, comme nous l'avons dit, mais encore il aime, il approuve et honore de sa confiance ceux qui l'imitent. Dans le passage cité, nous l'entendons dire « Je ne puis cacher mes desseins à Abraham. » Pourquoi cela ? Simplement parce qu'il commandera à ses fils et à sa maison de servir le Seigneur. Un homme qui sait commander cela à sa maison est digne de la confiance de Dieu. C'est là une étonnante vérité, dont le tranchant atteindra, j'espère, la conscience des parents chrétiens. Plusieurs d'entre nous, hélas, en méditant Genèse chapitre 18, verset 19, feront bien de se prosterner devant celui qui a prononcé et fait écrire cette parole et de s'écrier, de ma part, quelle chute honteuse et humiliante. Pourquoi sommes-nous dans ce cas? Pourquoi avons-nous manqué à la solennelle responsabilité qui nous est échue relativement au gouvernement de notre maison? La seule réponse, à mon avis, que l'on puisse faire à cette question, c'est que nous n'avons pas su réaliser par la foi le privilège conféré à cette maison en vertu de son association avec nous. Il est remarquable que nos deux premiers passages nous présentent, d'une manière fort exacte, les deux grandes divisions de notre sujet, savoir le privilège et la responsabilité. Dans le cas de Noé, la parole était « Toi et ta maison », et cela relativement au salut. Dans le cas d'Abraham, c'était « Toi et ta maison » relativement au gouvernement moral. Le rapport est, tout à la fois, remarquable et beau, et l'homme qui manque de foi pour s'approprier le privilège manquera de puissance morale pour réaliser la responsabilité. Dieu considère la maison d'un homme comme une partie de cet homme, et celui-ci ne peut, à aucun degré, soit en principe, soit en pratique, négliger cette relation sans souffrir un sérieux dommage et sans nuire au témoignage. Maintenant, la question pour la conscience d'un père chrétien est celle-ci. Est-ce que je compte sur Dieu pour ma maison? Et est-ce que je gouverne ma maison pour Dieu? C'est là une question solennelle en vérité. Cependant, il est à craindre que très peu de chrétiens en sentent l'importance et la gravité. Peut-être mon lecteur se sent-il disposé à demander d'autres preuves scripturaires quant à notre droit de compter sur Dieu pour nos maisons. Je continuerai donc à citer l'Écriture. Voici une citation tirée de l'histoire de Jacob.
« Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. »
Genèse 35, verset 1. Cette parole semble n'avoir été adressée qu'à Jacob personnellement, mais il n'en pensa pas ainsi, car jamais, même pour un moment, il n'eut l'idée de s'isoler lui-même de sa famille, ni quant au privilège, ni quant à la responsabilité. Aussi est-il immédiatement ajouté,
« Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. »
Genèse 35, versets 1 à 3. Nous voyons, par là, qu'un appel fait à Jacob met toute la maison de celui-ci sous une responsabilité. Jacob était appelé à monter à la maison de Dieu, et la question qui se présente immédiatement à sa conscience est « Ma maison est-elle dans un état convenable pour répondre à un tel appel ?» Nous arrivons maintenant au premier chapitre du livre de l'Exode, où nous trouvons qu'une des quatre objections du Pharaon à refuser de laisser sortir Israël était spécialement relative aux petits-enfants. Exode 10, versets 8 et 9.
Et on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon, et il leur dit, « Allez, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Et Moïse dit, « Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards, nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail, car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. »
La raison pour laquelle ils devaient prendre jeunes et vieux avec eux était qu'ils avaient une fête solennelle à célébrer à l'Éternel. La nature pourrait dire, « Oh, qu'est-ce que ces petites créatures peuvent comprendre à une telle fête ? Ne craignez-vous pas d'en faire des formalistes ?» La réponse de Moïse est simple et décisive, « Nous irons avec nos petits-enfants, etc. » Verset 10.
« Car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. »
Les parents israélites n'avaient pas l'idée qu'ils dussent chercher une chose pour eux-mêmes et une autre pour leurs enfants. Ils ne soupiraient pas après Canaan pour eux-mêmes et après l'Égypte pour leurs enfants. Comment auraient-ils pu se nourrir de la manne du désert ou du froment du pays de la promesse, tandis que leurs enfants se seraient nourris des poireaux, des oignons et des aulx de l'Égypte? Impossible. Ni Moïse ni Aaron n'auraient compris une telle manière d'agir. Ils sentaient qu'un appel de Dieu adressé à eux était un appel adressé à leurs enfants, et, de plus, n'en eussent-ils pas été pleinement convaincus, ils ne seraient pas plus tôt sortis d'Égypte par une route que les enfants les y auraient attirés de nouveau par une autre. Que tel eût été le cas, Satan le savait bien. Aussi mettait-il dans la bouche du Pharaon cette objection.
« Il n'en sera pas ainsi. Allez donc, vous les hommes faits, et servez l'Éternel. »
Exode 10, verset 11. C'est là ce que plusieurs chrétiens professants font, ou plutôt essaient de faire de nos jours. Ils professent de sortir de l'Égypte pour servir le Seigneur, et ils y laissent leurs petits-enfants. Ils professent avoir fait le chemin de 3 jours au désert. En d'autres mots, ils professent avoir laissé le monde, être morts au monde et ressuscités avec le Christ, comme possédant une vie céleste et héritiers d'une gloire céleste. Mais ils laissent leurs enfants en arrière, entre les mains du Pharaon, ou plutôt de Satan. Ils ont renoncé au monde pour eux-mêmes, mais ils ne peuvent y renoncer pour leurs enfants. Le jour du Seigneur, ils revêtent la profession d'étrangers et voyageurs. Ils chantent des hymnes, ils prononcent des prières, édifient, enseignent, paraissent être des personnes bien avancées dans la vie céleste, et qui, par leur expérience réelle, touchent aux frontières de Canaan. En esprit, ils y sont déjà. Mais hélas, dès le lundi matin, chacun de leurs actes, chacune de leurs habitudes reprises contredit leur profession de la veille. Leurs enfants sont élevés pour le monde. Le but, la direction et le genre d'éducation qu'on leur donne, le choix de leur carrière, tout cela est mondain, dans le sens le plus vrai et le plus strict de ce mot. Moïse et Aaron n'auraient pu admettre une telle manière de faire, pas plus qu'un cœur moralement droit et sincèrement intègre ne peut le comprendre. Je ne dois avoir pour mes enfants nul autre principe, nul autre objet à poursuivre, nulle autre perspective que ceux que j'ai pour moi-même, et je ne dois pas non plus leur permettre d'entretenir même l'idée d'en avoir d'autres. Si Christ et la gloire céleste sont suffisants pour moi, ils sont suffisants pour eux aussi. Mais il faudrait que la preuve qu'ils sont réellement suffisants pour moi ne fût pas équivoque. Le caractère d'un père ou d'une mère chrétien devrait être tel qu'il ne donna pas lieu à l'ombre d'un doute relativement à ce qui est l'objet réel ou le but positif de son âme. Que pensera mon enfant si je lui dis que je désire ardemment qu'il soit rendu participant de Christ et du ciel, et qu'en même temps je l'élève pour le monde? Que croira-t-il? Qu'est-ce qui exercera la plus puissante influence sur son cœur et sur sa vie? Mes paroles ou mes actes? que la conscience réponde et que sa réponse soit droite et franche, qu'elle procède des plus intimes profondeurs de l'âme, qu'elle montre sans réplique que la question a été comprise dans ce qu'elle a de grave et de poignant. Je crois que le temps est venu pour les chrétiens de chercher à agir sur la conscience les uns des autres. Il doit être évident pour tout homme de prière qui observe avec soin l'état actuel du christianisme que celui-ci paraît bien malade, que le ton en est misérablement bas, en un mot, qu'il doit y avoir en lui quelque chose de radicalement mauvais. Quant au témoignage relatif au Fils de Dieu, hélas, qu'on y pense peu. Le salut personnel semble former, pour 99 chrétiens professant sur 100, le tout de ce qui les intéresse, comme si nous étions laissés ici-bas pour être sauvés, et non comme des sauvés pour glorifier Christ. Or je voudrais, avec affection et pourtant avec fidélité, demander à mes lecteurs si, en grande partie du moins, on ne pourrait pas attribuer la chute, quant au témoignage pratique pour Christ, à la négligence du principe que nous trouvons impliqué dans ces mots « Toi et ta maison ». Je suis convaincu que cette négligence y a une grande part. Une chose est certaine, c'est que beaucoup de mondanité, de confusion et de mal moral se sont glissés au milieu de nous, parce que nos enfants ont été laissés en Égypte. Plusieurs, il y a 10, 15 ou 20 ans, prirent dans l'Église une position éminente de témoignage et de service, et semblaient être de tout cœur à l'œuvre du Seigneur. Mais maintenant, ils sont retournés en arrière d'une manière lamentable, n'ayant pas la force de tenir leur tête au-dessus de l'eau, et encore bien moins celle d'aider les autres à se tenir debout. Tout ceci ne crie-t-il pas bien haut aux parents chrétiens? Gardez-vous de laisser vos enfants en Égypte. Plus d'un cœur de père est brisé pour avoir manqué de fidélité dans le gouvernement de sa maison. Il a laissé ses enfants en Égypte dans un temps funeste de grossières illusions. Et maintenant qu'avec une réelle fidélité, peut-être, et une sérieuse affection, il essaie de les avertir du danger, il ne rencontre que des cœurs séduits et sourds à ses avertissements, des cœurs attachés avec décision et avec vigueur à cette Égypte dans laquelle son inconséquence et sa faiblesse les ont laissés. C'est là un fait sérieux dont la seule mention pourra tourmenter plus d'un cœur, mais la vérité doit être dite. Si elle paraît blessante à quelques-uns, elle peut être, pour d'autres, un avertissement salutaire. Une note en bas de page. Il y a, je dois le dire, une grande inconséquence dans la conduite de parents chrétiens qui laissent lire à leurs enfants n'importe quel livre. Un livre est comme un instituteur qui, quoique silencieux, n'en a pas moins d'influence sur l'esprit, sur le cœur et sur le caractère. Fin de la note. J'en reviens aux preuves scripturaires que j'ai à fournir. Dans le livre des Nombres, les petits-enfants nous sont encore présentés. Nous avons déjà vu qu'un fidèle en communion avec Dieu ne peut jamais, de propos délibérés, avoir l'intention de laisser ses enfants en Égypte. Il faut qu'ils en sortent, coûte que coûte. Mais ni la foi, ni la fidélité de parents chrétiens ne se borneront à cela. Nous devons compter sur Dieu, non seulement pour les sortir d'Égypte, mais aussi pour les amener en Canaan. À cet égard, Israël manqua d'une manière évidente, car, lorsque les espions revinrent de Canaan, le peuple, en entendant leur décourageant rapport, laissa échapper ces tristes paroles. Pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte?
Nombre chapitre 14, verset 3.
effrayant état d'âme qui, autant qu'il était en eux, réalisait cette menace rusée et méchante du Pharaon.
« Comme je vous laisserai aller avec vos petits-enfants, regardez, car le mal est devant vous. »
Exode chapitre 10, verset 10. L'incrédulité justifie toujours Satan et fait Dieu menteur, tandis que la foi, au contraire, justifie toujours Dieu et fait Satan menteur. Et comme il est invariablement vrai qu'il nous est fait selon notre foi, il est aussi toujours vrai que l'incrédulité moissonne ce qu'elle sème. Ainsi en fut-il d'Israël malheureux, parce qu'il était incrédule.
« Je suis vivant, dit l'Éternel, si je ne fais comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés. Mais vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. »
Nombre 14, versets 28 à 32. Ils bornaient le Saint d'Israël quant à leurs petits-enfants. C'était un grave péché, et il nous a été mentionné pour notre instruction. N'arrive-t-il pas aussi constamment que le cœur de parents chrétiens résonne sur la manière d'agir avec leurs enfants au lieu de les mettre simplement sur le terrain de Dieu? On dira peut-être, nous ne pouvons faire des chrétiens de nos enfants. Mais ce n'est pas là la question. Nous ne sommes pas appelés à faire d'eux quelque chose. C'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Mais s'il nous dit, amenez vos petits-enfants avec vous, refuserons-nous d'obéir? Ou encore, je ne voudrais pas faire de mon enfant un formaliste, et je ne pourrais pas en faire un vrai chrétien. Mais si, dans son infinie grâce, Dieu me dit, je considère ta maison comme une partie de toi-même, et en te bénissant, je la bénis, dois-je, par incrédulité de cœur, repousser cette bénédiction sous prétexte de la crainte du formalisme ou de mon impuissance à communiquer la vérité? Dieu nous garde d'un tel égarement. Réjouissons-nous plutôt avec de vives actions de grâce de ce que Dieu nous a béni d'une telle bénédiction si riche, si abondante, qu'elle s'étend non seulement à nous, mais encore à tous ceux qui nous appartiennent. Et puisque la grâce nous a accordé cette bénédiction, il faut que la foi la saisisse et l'approprie à notre famille. Plusieurs se consolent de ce que sont leurs enfants par l'assurance que, une fois ou une autre, ils seront convertis. Mais ce n'est pas les mettre tout de suite sur le terrain de Dieu. Si nous avons l'assurance qu'ils sont des enfants de Dieu, pourquoi ne pas agir en conséquence? Si nous attendons de voir certaines preuves de conversion en eux, il est clair alors que nous regardons à autre chose qu'à la promesse de Dieu. Le chrétien doit, dès maintenant, considérer son enfant comme appartenant à Christ, et il est tenu de l'élever en conséquence, en s'attendant à Dieu, avec une pleine assurance pour le résultat. Si, avant d'agir ainsi, j'attends de voir des fruits, ce n'est pas de la foi. Et pendant ce temps, mes enfants pourront vagabonder, pour ainsi dire, loin des sentiers du Seigneur, n'apportant qu'opprobre sur son nom et sur son évangile. Me suffira-t-il de me dire « Ils seront convertis plus tard » Non, mes enfants devraient être, dès maintenant, un témoignage pour Dieu, et ils ne peuvent l'être qu'autant que je choisis pour eux, dès maintenant, le terrain de Dieu et que je marche avec lui dans ce qui les concerne. Rappelons-nous que le moyen de prouver que nous savons jouir d'une bénédiction, c'est d'être fidèles à la responsabilité qu'elle impose. Dire que je compte sur Dieu pour amener mes enfants en Canaan et, en même temps, les élever pour l'Égypte est une pernicieuse illusion. Ma conduite crie que ma profession est un mensonge et je ne dois pas m'étonner si, dans ces justes dispensations, Dieu permet que je recueille les fruits amers de mes voies. C'est la conduite qui est la meilleure preuve de la réalité de nos convictions, et, en ceci comme en toute chose, cette parole du Seigneur est solennellement vraie.
Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu.
Mais souvent nous voulons connaître la doctrine avant de faire sa volonté, et il en résulte que nous sommes laissés dans la plus profonde ignorance. Faire la volonté de Dieu à l'égard de nos enfants, c'est les considérer, ainsi qu'il le fait, comme une partie de nous-mêmes, et les élever en conséquence. Ce n'est pas seulement espérer que plus tard ils seront manifestés comme des enfants de Dieu, mais c'est les considérer comme étant déjà sous la bénédiction et agir avec eux d'après ce principe à tous égards. On pourrait conclure des pensées et des actes de plusieurs chrétiens qu'à leurs yeux leurs enfants ne sont que des gentils qui n'ont, pour le présent, aucun intérêt en Christ, aucune relation avec Dieu du tout. C'est là assurément faire bien peu de cas du sceau divin. Il ne s'agit nullement ici de la question trop souvent débattue du baptême des enfants ou des adultes. Non, c'est simplement et uniquement une question de foi en la puissance et en l'étendue de cette parole toute miséricordieuse, toi et ta maison. Parole dont la force et la beauté nous apparaîtront toujours mieux à mesure que nous avancerons dans ce petit écrit. Dans le chapitre 16 des Nombres, versets 26 et 27, nous trouvons encore les enfants considérés comme inséparablement unis à leurs parents, et cela dans une circonstance des plus tragiquement solennelles. Et Moïse parla à l'assemblée disant, « Éloignez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez dans tous leurs péchés. » Et ils se retirèrent d'auprès de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiran tout alentour. Et Dathan et Abiran sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes et leurs fils et leurs petits-enfants. Tous ces enfants descendirent vivants dans le gouffre et y furent engloutis, non pour s'être personnellement associés à la rébellion, mais à cause de leur identité avec leurs parents rebelles. Soit en bénédiction, soit en jugement, Dieu traite les enfants comme n'étant qu'un avec leurs parents. On peut demander, pourquoi cela? Et Dieu répond dans Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et cria,
« L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils sur la troisième et sur la quatrième génération. »
Quelques personnes peuvent trouver difficile de concilier ce passage avec celui d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, où il est dit
« L'âme qui a péché, celle-là mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. »
Dans ce dernier verset, le père et le fils sont considérés dans leur propre capacité individuelle et, en conséquence, ils sont jugés selon l'état moral de chacun d'eux individuellement. C'est ici une question absolument personnelle. D'un bout à l'autre du Deutéronome, les Israélites sont enseignés de Dieu à mettre les commandements, les statuts, les jugements et les préceptes de la loi devant leurs enfants, et ceux-ci sont représentés comme s'enquérant, dans plusieurs circonstances, de la nature et du but de diverses ordonnances et institutions. J'en viens maintenant à cette belle déclaration de Josué.
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Josué 24, verset 15. Remarquez qu'il ne dit pas seulement moi, mais moi et ma maison. Il comprenait qu'il n'était pas suffisant que lui, Josué, fût parfaitement pur de tout contact avec les souillures et les abominations de l'idolâtrie. Il sentait, de plus, qu'il avait à veiller sur le caractère moral et sur les actes de sa maison. Quoique Josué n'adora pas lui-même les idoles, n'eût-il pas été coupable si ses enfants les eussent servis? De plus, le témoignage pour la vérité eût été aussi réellement gâté par l'idolâtrie de la maison de Josué que par l'idolâtrie de Josué lui-même, et le jugement n'aurait pas manqué de suivre. Il est très important de bien comprendre cela. La vérité nous en est solennellement démontrée au commencement du premier livre de Samuel par ces paroles.
Et l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose telle que quiconque l'entendra, les deux oreilles lui tinteront. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit touchant sa maison. Je commencerai et j'achèverai, car je lui ai déclaré que je vais juger sa maison pour toujours à cause de l'iniquité qu'il connaît, parce que ses fils se sont avilis, et qu'il ne les a pas retenus. »
1 Samuel 3, versets 11 à 13. Dans cet exemple, nous voyons que, quel que soit le caractère personnel du serviteur de Dieu, le Seigneur ne le tiendra point pour innocent s'il ne discipline pas convenablement sa maison. Élie aurait dû réprimer ses fils. C'était son privilège, comme c'est le nôtre, de pouvoir compter que la puissance de Dieu agirait avec lui pour soumettre tout élément qui, dans sa maison, était de nature à compromettre le témoignage qu'il devait à Dieu. Mais il n'agit pas dans ce sens et ne sut pas se prévaloir de cette puissance pour surmonter le mal dans les siens. Aussi, la fin d'Élie fut-elle un terrible jugement. Parce que son cœur n'avait pas été brisé au sujet de sa maison, sa nuque fut brisée au sujet de la maison de Dieu. S'il eût compté sur Dieu et agi fidèlement avec lui pour réprimer ses fils coupables, selon la sainte responsabilité qu'il avait de le faire, la maison de Dieu n'eût pas été souillée et l'arche de Dieu n'eût pas été prise. En résumé, si Élie eût considéré sa famille comme une partie de lui-même et l'eût rendue telle qu'elle devait être, certainement, alors, il n'aurait pas attiré sur lui-même le terrible jugement de celui qui a pour principe de ne jamais séparer ses maux, toi et ta maison. Hélas, depuis cet événement, combien de parents n'ont-ils pas marché sur les traces d'Élie? Combien n'y en a-t-il pas qui, se faisant une idée totalement fausse de la base et du caractère de leur relation avec leurs enfants, agissent envers eux d'après le principe d'une indulgence illimitée et leur laissent faire leur propre volonté dès l'enfance? Ne les plaçant pas par la foi sur le terrain divin, ces parents n'ont pas même la force morale de se placer sur le terrain humain pour rendre leurs enfants respectueux et obéissants. Et le résultat de tout cela est le plus triste spectacle d'insubordination et de confusion. Le premier but que doit se proposer le serviteur de Dieu dans le gouvernement de sa maison, c'est qu'il y ait là un témoignage rendu à la gloire de celui à la maison duquel il appartient lui-même. C'est là le vrai principe qui doit surtout agir dans le cœur et dans la conduite d'un père chrétien. Ainsi, ce n'est pas pour que ses enfants lui donnent moins de peine et plus de repos qu'il doit les tenir dans l'ordre, mais c'est parce que la gloire de Dieu est intéressée au bon ordre des maisons de tous ceux qui font partie de la maison de Dieu. Mais peut-être objectera-t-on que tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur ce point ne respire que l'atmosphère de l'Ancien Testament d'où nous l'avons tiré. Maintenant, au contraire, dira-t-on, Dieu agit envers nous selon le principe de l'élection et de la grâce qui conduit à l'appel individuel, sans égard à aucun lien ou à aucune relation domestique, en sorte qu'il se peut qu'un saint très pieux, très dévoué et affectionné aux choses d'en haut, se trouve pourtant à la tête d'une famille impie, déréglée et mondaine. Je maintiens cependant que les principes du gouvernement moral de Dieu sont éternels et doivent, par conséquent, être les mêmes et avoir leur application dans tous les âges. Dieu ne peut pas enseigner, dans un temps, qu'un homme et sa maison sont un et que le chef doit la gouverner convenablement, puis enseigner, dans un autre temps, que le père et sa famille ne sont pas un et que le père est libre de la diriger comme bon lui semble. Cela est impossible. L'approbation ou la désapprobation de Dieu à l'égard de telle ou telle chose dérive de ce qu'il est en lui-même. Et comme Dieu gouverne sa maison d'après ce qu'il est lui-même, il commande à ses serviteurs de diriger leur maison d'après le même principe. La dispensation de la grâce ou du christianisme a-t-elle annulé ce bel ordre moral? Oh non, bien au contraire, elle y a ajouté, s'il est possible, de nouveaux traits de beauté. Si la maison d'un juif était considérée comme une partie de lui-même, celle d'un chrétien le sera-t-elle moins? Non, en vérité, ce serait faire un triste abus et une bien fausse application du céleste mot « grâce » que de s'en autoriser pour justifier le désordre et la démoralisation qui règne, de nos jours, dans les maisons d'un grand nombre de chrétiens. Est-ce vraiment la grâce qui fait qu'un père lâche la bride à la volonté de ses enfants? Est-ce la grâce de les laisser se livrer aux caprices, aux convoitises, aux passions d'une nature corrompue? Ah, gardez-vous d'appeler cela du nom de grâce, de peur que vous ne finissiez par perdre l'intelligence du vrai sens de ce mot et que vous n'arriviez à imaginer que la grâce est le principe de tout ce mal. Appelez plutôt ces vues de leur propre nom un monstrueux abus de la grâce, une négation de Dieu, non seulement comme gouverneur de sa propre maison, mais aussi comme administrateur moral de l'univers, une contradiction flagrante de tout précepte inspiré. Mais, laissant l'Ancien Testament, voyons si nous ne pourrons pas trouver, dans les pages sacrées du Nouveau, de nombreuses preuves à l'appui de notre thèse. Dans cette grande division du livre, le Saint-Esprit sépare-t-il la famille d'un homme des privilèges et de la responsabilité que l'Ancien Testament y attache? Nous nous convaincrons facilement qu'il ne fait rien de pareil. Ainsi, quand le Seigneur Jésus envoie ses apôtres en mission, il leur dit « Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne, et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison, non pas seulement le chef, en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Matthieu 10, versets 11 à 13. Ailleurs, Jésus dit à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Luc 19, versets 9 et 10. De même, dans le cas de Corneille,
envoie à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
Acte 11, versets 13 et 14. Il fut dit aussi au geôlier de Philippe,
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
Acte 16, verset 31. Puis nous en trouvons le résultat pratique.
Et il les fit monter dans sa maison et fit dresser une table, et croyant Dieu, il se réjouit avec toute sa maison.
Acte 16, verset 34. Dans le même chapitre, Lydie, après avoir été baptisée, ainsi que sa maison, dit
« Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. »
Acte chapitre 16, verset 15.
Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore.
Et pourquoi? Était-ce à cause des bons offices de cette maison envers l'apôtre? Non, dit Paul, mais parce que lui, Onésiphore,
m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne.
De Timothée 1, verset 16.
Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu?
1 Timothée 3, versets 2, 4 et 5. Dans toutes ces citations, nous trouvons la même grande vérité, savoir que, lorsque Dieu visite un homme, en lui accordant des bénédictions et des responsabilités, il visite de la même manière la maison de cet homme. Parcourez le canon tout entier de l'inspiration, partout vous y verrez ce principe pratique soigneusement établi et posé. Il est digne de Dieu de nous le faire connaître. Mais hélas, frères bien-aimés du Seigneur, combien nous y avons été infidèles, et quel préjudice le témoignage au Fils de Dieu n'a-t-il pas reçu, en ces derniers temps, par nos manquements à cet égard et à tant d'autres. Le mal s'est manifesté, il est vrai, sous diverses formes, orgueil, vanité, mondanité, esprit charnel, motifs tristement mélangés, impie déploiement d'une énergie purement charnelle ou intellectuelle, emploi de la précieuse parole de Dieu comme d'un piédestal pour nous élever nous-mêmes, misérables prétentions à une position dans l'Église ou dans le monde, affectation de dons, exposition déloyale de principes dont nos consciences n'ont jamais réellement éprouvé l'ascendant, présentation aux autres d'une balance dans laquelle nous ne nous sommes jamais pesés nous-mêmes en présence de Dieu, lamentable état d'une conscience qui, si elle eût été bien réglée, nous eût conduit à voir l'inconséquence manifeste qui existe entre les principes que nous professons et notre manière d'agir. En toutes ces choses, comme aussi en beaucoup d'autres, il y a eu une chute des plus profondes et des plus évidentes, chute qui a contristé le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous professons d'être scellés, et qui a déshonoré le Saint-Nom qui est réclamé sur nous. La pensée de cette chute devrait nous faire prendre le sac et la cendre, nous couvrir de honte et de confusion de face, nous amener à l'humiliation et à la confession, non pas un moment, ou un jour, ou une semaine, mais jusqu'à ce que Dieu lui-même nous relève. Nous avons quelquefois des assemblées de prières et d'humiliations, mais, hélas, frères, à peine en sommes-nous dehors que nous prouvons, par la détestable légèreté de notre esprit et de notre manière d'être, combien peu nous avons réellement jugé notre état devant Dieu. De cette manière, comment pourrait être atteinte la racine si profonde et si étendue de la maladie de nos cœurs? Notre conscience a besoin d'être bien profondément labourée, afin que la semence de la vérité divine n'y soit pas semé en vain. L'instrument dont Dieu se sert pour labourer et semer, tout à la fois, est la vérité. Donc, il faut nous mettre sous l'action de cette vérité. Il faut apporter, sous son influence, un cœur honnête et bon, une conscience délicate et un esprit droit. Or, si la vérité agit sur nous de cette manière, que nous révélera-t-elle? Quel est notre état? Qu'est-ce que nous sommes au milieu de cette sphère dans laquelle le Maître nous a commandé de trafiquer jusqu'à ce qu'il vienne? D'où vient que nos réunions de culte, nos réunions d'édification et nos réunions de prière sont si souvent sans puissance et sans efficace? La promesse de Christ est pourtant toujours vraie. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Or là où sa présence est réalisée, il doit y avoir puissance et bénédiction. Mais il ne nous fait sentir sa présence qu'autant que nos cœurs, vrais et droits devant lui, le cherchent comme l'objet spécial de notre réunion. Si nous avons en vue quelque autre objet que lui-même, nous ne pouvons plus dire que nous sommes assemblés en son nom, et, en conséquence, sa présence ne sera pas réalisée. Combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui assistent aux réunions sans avoir Christ comme leur premier et direct objet? Quelques-uns y vont pour entendre des discours, afin d'être édifiés. C'est l'édification et non pas Christ qui les réunit. Il peut y avoir de pieuses émotions, de saintes aspirations, beaucoup de sentiments religieux, un vif intérêt intellectuel, en s'occupant de la lettre des Écritures ou de certains points de la vérité. Mais tout cela peut exister sans la moindre réalisation de la sainte et sanctifiante présence de Christ, selon la promesse faite en Matthieu 18, verset 20. D'autres viennent à l'assemblée avec le cœur préoccupé de ce qu'ils vont dire ou faire. Ils ont un chapitre à lire, une hymne à indiquer, quelques remarques à faire où ils ont l'intention de prier, et ils épient le moment favorable pour se mettre en avant. Il est, hélas, bien évident que ce n'est pas Christ qui est le principal objet de ces chrétiens, mais uniquement le moi, ses pauvres actes et ses misérables paroles. Ces personnes contribuent à dépouiller l'assemblée de son caractère de sainteté, de puissance et de vraie élévation, car, à cause d'elle, ce n'est pas Christ qui préside, c'est la chair qui figure, et cela dans les plus sérieuses circonstances. La chair peut jouer son rôle sur un théâtre ou dans une tribune politique, mais dans une assemblée de saints, elle devrait être comme n'existant pas. Je ne suis pas du tout autorisé à me présenter devant le Seigneur dans une réunion d'enfants de Dieu avec la préméditation de lire tel ou tel chapitre, d'indiquer tel ou tel hymne ou avec un discours préparé. Je dois venir au milieu de mes frères pour m'y asseoir en la présence de Dieu et me soumettre à sa souveraine direction. En un mot, si j'y vais au nom de Jésus, lui seul sera mon objet et j'oublierai toute autre chose. Cela ne veut pas dire que, ayant Jésus pour objet, je ne puisse ni communiquer, ni recevoir de l'édification. Oh, bien au contraire, car ce n'est qu'autant que le Seigneur est comme placé devant moi, que je serai vraiment capable d'édifier ou d'être édifié. Le moindre est toujours renfermé dans le plus grand. Si j'ai Christ, je ne puis manquer d'avoir de l'édification. Mais si je cherche celle-ci au lieu de Christ, si j'en fais mon but, je les perds tous les deux. En outre, combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui viennent pour rendre culte et qui n'ont ni la conscience purifiée, ni le cœur jugé, ni la chair mortifiée? Ils prennent leur place sur des bancs, mais ils sont froids et stériles, sans prières et sans foi, sans but réel. Ils viennent machinalement parce que c'est leur habitude de venir, mais ils ne sont pas dominés par un sincère désir de rencontrer le Seigneur. Pour eux, se rassembler n'est qu'une pure formalité religieuse, et ils ne sont pour les autres qu'un obstacle à la bénédiction. Nous voyons donc que plusieurs causes variées en concourent à corrompre les sources de la vie et de la vigueur dans les assemblées, et voilà pourquoi le témoignage est, en général, si pauvre et si faible au milieu de nous. Ce n'est qu'un travail profond de la conscience qui pourrait sonder jusqu'au fond ces causes funestes. Ah, que du moins surgisse de beaucoup de cœurs cette question, « Seigneur, est-ce moi ?» Il est parfaitement inutile d'attendre une bénédiction durable ou une vraie restauration tant que nous ne serons pas sérieusement amenés à une humiliation véritable, à un sincère jugement de nous-mêmes. Si nous sommes appelés à rendre témoignage à Christ, il faut que cet appel nous trouve au pied de Jésus, ayant appris là ce que nous sommes et combien nous avons manqué. Nul n'a le droit de jeter la pierre à l'autre. Tous nous avons péché, tous nous avons été infidèles au témoignage du Fils de Dieu. Tous nous avons contribué, en quelque mesure, à l'humiliant état de choses qui nous entoure. Il ne s'agit pas ici d'une simple question d'Église, d'une simple différence de jugement quant à des points de la vérité, quelque important qu'ils soient en eux-mêmes. Non, frères, le monde, la chair et le diable sont au fond de notre triste état actuel, et tous les arguments que l'amour de Christ peut nous suggérer se réunissent pour nous inviter à nous juger nous-mêmes foncièrement en la présence de Dieu. Or, je suis convaincu que si ce jugement a lieu et met tout en lumière, il se trouvera qu'une des plus grandes causes de tant de mal, de tant de faiblesses et d'une si grande chute consiste dans la négligence de ce que comporte cette expression « toi et ta maison ». Pour des observateurs, les enfants sont la pierre de touche de ce que sont les parents, et la maison révèle l'état moral de son chef. Je ne puis jamais me former une idée exacte de ce qu'est un homme, d'après ce que je vois ou entends de lui dans une assemblée. Là, il peut paraître très spirituel et enseigner des choses très belles et très vraies, mais pour juger sainement de sa personne, laissez-moi entrer dans sa maison. Et là je pourrai connaître ce qu'il en est de lui. Il peut parler comme un ange du ciel, et si sa maison n'est pas gouvernée selon Dieu, il n'est pas un fidèle témoin de Christ. Sous l'expression « maison », trois choses sont comprises, la maison elle-même, les enfants et les domestiques. Ces trois choses, prises collectivement ou une à une, doivent porter le cachet de ce qui appartient à Dieu. La maison d'un homme de Dieu doit être gouvernée pour Dieu, pour sa gloire et en son nom. Le chef d'une maison chrétienne doit y être le représentant de Dieu. Que ce soit comme père ou comme maître, il est, pour tous ceux qui sont sous son toit, le dépositaire de l'autorité de Dieu, et il est tenu d'agir selon l'intelligence et le développement pratique de ce fait. C'est sur ce principe qu'il doit diriger sa maison et en prendre soin. Aussi est-il écrit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. » En négligeant la sphère dans laquelle Dieu l'a établie, il prouve qu'il connaît peu celui qu'il est appelé à représenter, et, par conséquent, il lui ressemble peu. Cela est très simple. Si je désire savoir quels soins je dois avoir de ceux qui sont sous ma responsabilité, et comment je dois gouverner ma maison, je n'ai qu'à étudier soigneusement la manière dont Dieu prend soin des siens et dont il gouverne sa maison. C'est la bonne manière d'apprendre. Il ne s'agit pas maintenant de savoir si les personnes qui composent la maison sont ou ne sont pas convertis. Ce que je voudrais mettre avec force sur la conscience de tous les chrétiens chefs de famille, c'est que tout ce qu'ils font d'un bout à l'autre de leur marche devrait porter bien visiblement l'empreinte de la présence de Dieu et de l'autorité de Dieu. L'influence du père de famille devrait être telle que, lorsqu'il est là, chacun pût dire ou penser « Dieu est là ». Et cela devrait avoir lieu non pour que le chef de la maison fût loué à cause de son influence morale et de sa judicieuse administration, mais simplement pour que Dieu fût glorifié. Rien d'autre que ce qui tend à ce but ne devrait nous satisfaire. La maison de tout chrétien devrait être une représentation en miniature de la maison de Dieu, quant à l'ordre moral et à la pieuse disposition de tout l'ensemble. Quelques-uns pourront secouer la tête et dire « Tout cela est bien beau, mais où le trouverez-vous » Je me borne à demander « Est-ce que la parole de Dieu enseigne et prescrit aux chrétiens de gouverner sa maison de cette manière ?» S'il en est ainsi, malheur à moi si je refuse d'obéir ou si je manque de fidélité dans l'obéissance. Toute personne dont la conscience est droite reconnaîtra qu'il y a eu une chute des plus graves quant à la direction de nos maisons. Rien n'est plus honteux que de voir un homme prendre calmement son parti du désordre, de l'indiscipline qui règne dans sa maison, et se rassurer par la pensée qu'il lui est impossible d'atteindre la règle parfaite que Dieu lui propose. Tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre les directions de l'Écriture. Et la bénédiction suivra nécessairement tôt ou tard, car Dieu ne peut se renier lui-même. Mais si, par incrédulité de cœur, je me persuade qu'il m'est impossible d'atteindre la bénédiction, il est sûr que je la manquerai. Tout privilège ou toute bénédiction que Dieu met devant nous exige une énergie de foi pour être saisie. Il en est comme de Canaan pour les enfants d'Israël. Le pays était devant eux, mais ils devaient y entrer, car Dieu avait dit « Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied ». Il en est toujours de même. C'est la foi qui prend possession de ce que Dieu donne. Notre unique but en toutes choses devrait être de glorifier celui qui a tout fait pour nous. Et qu'est-ce qui est le plus contraire à ce but, sinon de voir la maison d'un des serviteurs de Dieu être justement le contraire de ce qu'il désire qu'elle soit? Comment l'œil de Dieu doit-il considérer telle ou telle chose, si notre œil humain en est scandalisé? On pourrait penser, d'après ce qu'on voit dans telle ou telle maison, que les chrétiens n'ont pas l'idée qu'il y ait la moindre relation entre la tenue de leur maison et leur témoignage. Plusieurs parlent de la séparation d'avec le monde, mais leur maison ne présente que la plus désolante mondanité. Ils disent que le monde est crucifié pour eux et qu'ils sont crucifiés à l'égard du monde, et cependant l'empreinte du monde se retrouve partout chez eux. Chaque objet y semble destiné à servir à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. On nous accusera de détails puérils, mais les filles de Sion auraient pu en dire autant de ces paroles que leur adresse l'Éternel dans Ésaïe, chapitre 3, versets 18 à 23.
En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de pied, et les petits soleils et les petites lunes, les pendeloques de perles et les bracelets et les voiles, les diadèmes et les chaînettes des pieds, et les ceintures et les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux de nez, les vêtements de fête et les tuniques et les manteaux et les bourses, et les miroirs et les chemises et les turbans et les voiles de gaze.
N'était-ce pas là descendre à des détails bien minutieux? N'en est-il pas de même de ce passage d'Amos chapitre 6 versets 1 à 6?
Malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion, qui vous couchez sur des lits d'ivoire et qui vous étendez mollement sur vos divans, et qui mangez les agneaux du troupeau et vos gras de l'étable, qui chantez au son du luth et inventez, comme David, à votre usage des instruments pour le chant.
L'Esprit de Dieu peut descendre au détail quand cela est nécessaire. Mais, diront quelques-uns, nos maisons doivent être en harmonie avec le rang que nous occupons dans la société et meublées en conséquence. Une telle objection ne fait que révéler bien ouvertement la mondanité qui règle le cœur de ceux qui oseraient le faire. Votre rang dans la société. Ce terrain est sans contredit le monde. Qu'ont à faire avec lui des hommes qui font profession d'être morts au monde? Parler de notre rang dans la société, c'est renier les éléments mêmes du christianisme. Si nous avons un rang selon le monde, il en résulte que nous devons vivre comme des hommes en la chair ou comme des hommes naturels, et alors la loi a tout son empire contre nous.
Car la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit.
Ce rang dans la vie devient donc une affaire bien sérieuse. Comment pouvons-nous l'obtenir? Ou dans quelle vie se trouve-t-il? Si c'est dans cette vie-ci, nous sommes donc des menteurs quand nous disons que nous sommes
crucifiés avec Christ, morts avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, sortis hors du camp vers Christ.
Que nous ne sommes pas du monde qui passe. Toutes ces paroles sont autant de brillants mensonges dans la bouche de ceux qui prétendent avoir ici-bas un rang à conserver. Voilà la vérité sur ce sujet. Ah, laissons la vérité atteindre nos consciences, afin qu'elle ait aussi son influence sur notre vie pratique. Quelle est la seule vie dans laquelle nous ayons un rang à conserver? C'est la vie de résurrection de Christ. C'est là la vie dans laquelle l'amour rédempteur nous a donné un rang. Et certes, nous savons bien que des ameublements mondains, des vêtements somptueux, l'ostentation et le luxe n'ont rien à faire avec le rang dans cette vie-là. Ah non, ce qui est en harmonie avec la vie céleste que Jésus nous a acquise et communiquée, c'est la sainteté du caractère, la pureté de la vie, la puissance spirituelle, une profonde humilité, la charité, la séparation de tout ce qui tient directement au monde et à la chair. Voilà quels sont les vrais ornements qui peuvent harmoniser avec notre rang céleste. Ceux qui parlent de leur rang dans cette vie sont déjà, dans leur cœur, retournés en Égypte. Ah, il est bien à craindre que la grande meule d'Apocalypse 18 ne nous présente un tableau trop fidèle de la fin de bien des éléments du christianisme creux et bâtard de nos jours. Apocalypse 18, verset 21.
Et un ange puissant leva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. »
Et si l'on allègue que le christianisme n'approuve pourtant pas le désordre et la saleté des maisons, je dirais que cela est parfaitement vrai. Je connais même peu de choses qui soient plus désolantes et déshonorantes que la saleté et le désordre dans la maison d'un chrétien. De telles choses ne doivent jamais se rencontrer avec un esprit vraiment spirituel ou même bien réglé. Où de telles choses existent, vous pouvez être sûr quelles sont les conséquences de quelque mal moral. Ici encore, la maison de Dieu nous est spécialement présentée comme modèle. Sur la porte de cette maison, ne pouvons-nous pas voir inscrite cette précieuse devise ?
Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre.
1 Corinthiens 14, verset 40. En conséquence, tous ceux qui aiment Dieu et sa maison désireront voir ce principe appliqué à leur propre demeure.